Kouski. Les actualités Cogeco Nouvelles.
5 mai, lundi, ici Guy Simard, voici les nouvelles. Le Premier ministre canadien s'est envolé aujourd'hui pour Washington où il doit rencontrer demain le président Donald Trump. Mark Carney souhaite amorcer des négociations sur un potentiel accord commercial avec les États-Unis. D'après l'ancien chef de mission adjoint de l'ambassade du Canada à Washington, Guy Saint-Jacques, la délégation canadienne doit tenter de préparer au mieux les détails de cette rencontre.
C'est une rencontre qui est extrêmement importante et qui va décider du cours des choses pour les prochains mois, les prochaines années. Monsieur Carney veut éviter les surprises, il veut éviter un guet-apens dans le bureau ovale. Et là, ça va être la tâche des diplomates, entre autres de notre ambassadrice à Washington, Kirsten Newman, d'essayer de négocier à l'avance le maximum de détails, éviter les surprises.
Par ailleurs, le milieu du cinéma du Québec peine à imaginer comment l'administration américaine pourra mettre en place les tarifs dont Trump menace l'industrie. Le président américain a annoncé avoir l'intention d'imposer des tarifs de 100% à tous les films qui ne seraient pas entièrement tournés aux États-Unis. Le PDG du Bureau du cinéma et de la télévision du Québec, Stéphane Cardin, souligne que la production étrangère représente, dans les bonnes années, $1 milliard en chiffre d'affaires au Québec, à peu près l'équivalent de la production québécoise au grand complet qui risque aussi d'écoper.
On peut aussi se poser la question sur l'impact qu'aurait une diminution marquée de la production étrangère sur la capacité du Québec à maintenir des infrastructures à la fine pointe, incluant des studios, des équipements de tournage dernier cri, nos équipes de production. Est-ce que cela pourrait même avoir un effet sur notre production nationale?
Le début de la saison de la pêche à la Société des établissements de plein air du Québec, la CEPAC, risque d'être perturbé alors que des syndiqués tiendront 3 jours de grève à compter du 15 mai. Le litige porte sur les salaires, sur l'ancienneté en cas de rappel au travail, sur la mobilité, les garanties d'heures de travail puisque principalement il s'agit d'employés saisonniers. Le président général du syndicat qui les représente, Christian Daigle.
C'est le premier coup de semonce qu'on envoie avec des moyens de pression lourds. Il y a eu d'autres moyens de pression lourds avant où on a passé, où on a fait valoir notre présence à travers les salons de chasse et pêche, à travers des choses. Ça ne semble pas l'avoir fait débloquer quoi que ce soit. Donc, malheureusement, on se doit d'aller une coche au-dessus. Et là, c'est une possibilité ou un potentiel de grève de 3 jours qui va venir perturber l'ouverture de la pêche.
Les syndiqués de la CEPAC sont représentés par le syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec. Les circonstances du décès entourant la disparition de Normand Meunier, dont les plaies de lit se sont aggravées de façon dramatique après une hospitalisation à l'hôpital de Saint-Jérôme, font l'objet d'une enquête du coroner qui a commencé aujourd'hui. L'homme de 66 ans, qui était tétraplégique, a demandé l'aide médicale à mourir à l'hiver 2024. Il l'a obtenue. Il n'y avait aucun espoir de guérison de ces plaies occasionnées par un manque de repositionnement et l'utilisation d'équipements inadéquats à l'hôpital. Pour l'avocat de la famille, Patrick Martin-Ménard, cette enquête revêt une occasion pour le système de santé de revoir l'ensemble de ses pratiques pour toutes les personnes qui souffrent de lésions de la moelle épinière.
J'espère que, au terme de ça, les leçons qui vont ressortir vont permettre de mettre en place des changements durables dans le système de santé, non pas uniquement à l'hôpital Saint-Jérôme en tant que tel, mais plus largement que ça. Il y a une réflexion à avoir, je pense, sur la façon dont le système de santé dessert cette clientèle-là.
La loterie du repêchage de la LNH tenue ce soir a permis aux Islanders de New York de décrocher le premier rang au repêchage du 27 juin. Ils n'avaient pourtant que 3,5% de chances de décrocher le gros lot. La dernière fois qu'ils avaient parlé premier en 2009, ils avaient repêché John Tavares. Vous écoutez Cogeco Nouvelles.
Météo.
Quelques averses, 11 degrés ce soir, cette nuit à Montréal, 22 demain, 30% pour les risques de pluie, Gatineau 12 et 21, 30% demain également, peut-être des orages, Sherbrooke 12 et 19, 60% de possibilité d'averses ce mardi, Trois-Rivières partiellement nuageux cette nuit à 11, 19 demain, on prévoit des averses d'un bout à l'autre de la journée, Québec 40% de risque demain 19, d'ici là 9, sous les nuages cette nuit.
Cogeco Nouvelle. Du Québec. En direct sur l'événement, à la minute où ça se produit. Le choc des idées, des entrevues qui font avancer. Et surtout, votre opinion.
FM 93. Le réseau Cogeco vous présente les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. L'émission de sport numéro 1.
winner of the 2025 NHL Draft Lottery and the first overall selection in the 2025 Upper Deck NHL Draft belongs to the New York Islanders.
Do you believe in miracles, Kenny Morrow? Because your team has pulled it off. The New York Islanders have won the NHL Draft Lottery. And that look from Kenny says it all. You have the lucky sweaters behind him.
Kenny, étant Ken Morrow, le directeur général par intérim des Islanders de New York depuis le départ de Lou Lamoriello, eh bien oui, surprenant malgré un faible pourcentage de chances de l'obtenir ce premier choix, là, qui se chiffrait à 3,5%, les Islanders de New York qui ont raté des séries sous la gouverne de Patrick Roy comme entraîneur, méritent ou gagnent. Mériter, c'est une autre affaire, mais gagnent très certainement le premier choix du prochain encamp 2025. Les Sharks repêcheront deuxième, les Blackhawks au troisième rang, le club d'André Tourigny, le club d'hockey du Utah va repêcher au quatrième rang, les Predators ont dégringolé un peu, sont cinquième, Philadelphie 6, Boston 7, Seattle 8, j'irai pas plus loin, le Canadien repêche 16e en vertu du choix obtenu des Flames de Calgary et 17e en vertu de son propre choix. Bien le bonsoir tout le monde, bienvenue aux amateurs de sport de retour après cette parenthèse de l'intensité des séries autour du Canadien de Montréal, de retour à l'ère régulière, si vous le voulez. Donc, Geneviève, qui était de retour avec son émission, ça va aller loin. Je la salue et je vous accueille pour nos rendez-vous réguliers du lundi au vendredi de 20h à minuit. Dans quelques instants, Martin McGuire et Danny Dubé sur les propos qui ont retenu notre attention tenus par Kent Hughes et Jeff Gorton aujourd'hui. Retour rapide, juste avant de vous décliner le menu qu'on vous propose ce soir sur les événements et surtout les deux matchs qui ont, ma foi, mis un terme à la première ronde de façon exceptionnelle, à la première ronde des éliminatoires de la LNH, notamment hier. Avez-vous regardé ça? Les Jets de Winnipeg. Can you believe it? Tout à l'heure, c'était Do you believe in miracles après la loterie, mais ça, je pense, c'était plus proche d'un miracle encore. Les deux buts dans les dernières minutes des Jets de Winnipeg avec le gardien Hellebuck qui est au banc, un attaquant supplémentaire. Il ne marque pas non plus une fois, mais deux fois, privé de Morrissey qui avait quitté assez tôt dans le match, privé de Mark Scheifele. Trois équipes canadiennes toujours en vie sur un total de 8. La meilleure chance depuis fort longtemps qu'un club canadien se rende jusqu'à la finale. Les Oilers l'ont fait l'an passé, mais peut-être méritent les grands honneurs. Mais c'était pas tout. Il fallait conclure ça. Mais moi, je me suis dit, je suis pas un parieur, je le disais avec Philippe Quentin plus tôt, mais j'aurais gagé ma maison au sens figuré, je l'aurais pas fait. Mais quand t'as vécu ça, de galer à une seconde et demie de la fin, puis tu tirais de l'arrière par trois buts quand il restait trois minutes, tu peux plus perdre. Et comme de raison... Adam Laurie. Et je me suis dit la même affaire quand Nick Suzuki a marqué contre Ottawa en fin de match un rebond en avant du filet. Je me suis dit que le Canadien ne peut pas manquer les séries, même si les Flameurs nous ont tenus en haleine jusqu'au tout dernier match. Et parlant de fin de match dramatique, presque miraculeuse, que penser de l'effort de Mikko Rantanen en troisième période du match contre l'Avalanche du Colorado qui, il y a quelques mois, l'échangeait en Caroline en pensant pas le revoir dans sa face trop rapidement? Ben non, qui vient les éliminer?
Yeah, definitely. I mean, they're missing their best D and maybe their best forward, so we still couldn't beat them. So yeah, I don't know what we're gonna do.
Nathan MacKinnon, qui était bouche bée à court de mots après la rencontre, il y a eu un petit sourire en coin quand il serrait la main de Rantanen. On voyait pas la face, on les voyait de côté. Je sais pas quel genre de regards se sont échangés. Je serais curieux d'être dans un petit meeting, juste les joueurs de l'Avalanche qui ont pensé de l'échange de Rantanen plutôt cette année. Un jour, ça va peut-être sortir dans un podcast dans 10 ans. Vous entendez Martin McGuire qui est tout près de moi. Bonsoir, Martin.
Quand j'ai vu ça, les trois buts marqués dans la même période, j'ai dit... Ouch!
Ouch!
Et Nekash, Mario, a été un peu ordinaire dans cette série-là.
Oui.
Pas mauvais.
Non.
Mais il n'y a pas eu l'impact.
Ben, Rantanen a pris la série sur ses épaules.
Absolument, absolument. Mais c'est sûr que lui, il était en mission, Mario.
Écoute, c'était impressionnant. Mais tu sais, quand t'es en mission, oui, mais dans son effort, tu voyais qu'il déployait des efforts vraiment au-dessus de la normale. Veux dire, il laissait tout sur la glace. Mais son deuxième but qui dévie, tu sais, des fois, il faut que la chance t'aide un petit peu. Ouais,
les marqueurs, c'est ça. Il tire dans
le filet, puis peut-être que c'était voulu. Sur Girard, ça dévie dans le filet. Deux buts, puis après ça, le troisième dans un filet désert.
Les marqueurs s'essayent tout le temps.
Ouais. C'est vrai.
N'oubliez
c'est
jamais vrai. Ça. Tu sais, Cole Caulfield, là, quand il descend, il est à la ligne des buts.
Il essaye.
Il va s'essayer tout le temps. Ça, c'est la caractéristique des marqueurs qui sont au-dessus de la moyenne.
Quand Martin Saint-Louis a enlevé son gardien avec 2 minutes 30 quelques secondes à faire dans la troisième période, il rêvait un scénario comme celui-là, mais ça ne se produit pas à toutes les fois. Et une autre nouvelle aujourd'hui, par rapport à tout, bon, il y a eu les matchs du week-end, mais là, tranquillement, il y a un groupe qui se prépare à aller représenter le Canada au championnat du monde et qui n'a pas encore dit son dernier mot, hein? Il ne cesse de rebondir. On pense toujours que c'est la dernière fois qu'on le voit sur la glace. Marc-André Fleury s'en va au championnat du monde.
I'm excited to go. I've never played in a world championship. I haven't played with Sid in a while, obviously, right? So I think it'll be fun to go spend some time together and yell at him in practice, but keep him honest in practice.
Hey, il n'a jamais représenté le Canada au championnat du monde. C'est ça fait génial, un bout qu'il n'a pas joué avec Sidney Crosby. C'est une belle histoire,
c'est génial, ça.
Oui.
Tu sais, ils ont essayé d'avoir Samuel Montembeau. Puis Montembeau a dû dire non en raison de sa blessure à l'aine. Il s'était pas entraîné. Il n'aurait pas été capable de rattraper le retard. Mais qu'on invite Marc-André Fleury, wow, chapeau.
La cerise sur le chapeau. Le point d'exclamation dans une compétition internationale. Et honnêtement, je l'avais pas vu venir.
Et regarde bien ça.
Avec Crosby en plus. Là,
regarde bien ça, il va être l'inspiration de ses coéquipiers.
Ben, il va y avoir plus. Ben, écoute, Crosby, juste le fait que Crosby soit là avec Fleury, il va y avoir beaucoup plus d'intérêt.
Crosby va s'arranger pour que tout le monde dise, aïe, on va aller chercher ça pour lui.
Ouais, je suis pas ben inquiet. Alors, wow, c'est des belles histoires comme quoi le Canadien est éliminé, mais le hockey continue de nous faire vibrer. On va suivre ça de très près pendant toute la durée des séries éliminatoires. On va bien sûr accorder une attention toute spéciale aux Rockets de Laval, pour qui l'aventure se poursuit malgré la défaite d'hier avec Caden Primo devant le filet sans qu'il soit responsable du revers. Mais hein, on aime ça, nous autres, les bonnes questions, les controverses. Bon, c'est pas une controverse, mais tu sais, les questions à savoir, bon, Primo ou Fowler, elle se pose déjà. Primo qui a admis que c'était un peu étrange comme situation de se retrouver, comme de revenir avec le club pour qui il a très, très bien fait cette année, mais comme presque être le gars trop d'une certaine façon. Hein. Tu mets qui devant le net demain, Martin, avant qu'on aille à la pause?
Écoute, moi, je pense que tu dois y aller avec Fowler. Parce que Fowler, c'est la suite pour l'organisation. Sais-tu qui a vécu ça? Yaroslav Halak.
Avec Carey Price.
Yaroslav Halak avec les Bulldogs d'Hamilton. Carey Price arrivait de Tri-City. Ça y arrivait des juniors. Il a pris carrément sa place. Pourquoi? Parce que oui. Bob Gainey avait dit, c'est lui qu'on forme. C'est lui qu'on développe. Alors, c'est pas que Bob Gainey a la parole absolue, mais honnêtement.
Mais Kent Hughes a dit que c'était pas leur décision aujourd'hui. Tu penses-tu que c'était une réponse bouclier? Genre, on veut pas tout dire comment on va gérer ça? Ou tu penses que c'est vraiment Pascal Vincent qui va décider?
Moi, je pense qu'il mettra pas une décision dans la bouche de son entraîneur. Kent Hughes est plus smart que ça. Mais il a quand même dit aussi, il dit, moi, j'aime bien ce que Pascal fait parce que quand on y envoie un joueur, il joue tout de suite. Alors,
c'est bonne celle-là.
C'est alors, tu sais, Primo, il a joué tout de suite, mais le gars qui avait gagné les deux premiers matchs, c'est Fowler.
Et Martin, au moment où l'on se parle, puis alors que l'émission n'a fait que commencer, alors que la deuxième ronde ne vient que de commencer, qui s'inscrit à la marque dans le match entre les Panthers et les Maple Leafs de Toronto? Bien, les Maple Leafs en avance, ce n'est qu'un but dans une série qui pourrait être très longue, plus longue, je l'espère. En tout cas, elle peut être courte. Si, je souhaite que Toronto gagne contre les Panthers de la Floride.
Je pense que les Leafs n'ont jamais été dans une aussi bonne disposition pour pouvoir passer à l'autre ronde.
Nylander, qui est l'auteur du premier but de cette série, c'est parti les amis. Merci d'être là avec nous ce soir. Georges St-Pierre, à quelques jours du retour de la UFC à Montréal au Centre Bell, je dirais assez longue entrevue, mais surtout intéressante entrevue avec GSP. On va parler de politique, on va parler de Joe Rogan, qui n'a pas convaincu de venir au Canada. On va parler de la qualité de la carte de samedi, de ce qu'il rend le plus fier depuis sa retraite en 2017. Et plus encore, à ne pas manquer, donc 21h30, Stéphane Leroux sur les séries du Rocket. Antoine Roussel, à qui on n'a pas parlé depuis l'élimination du Canadien. Stéphane White à 22h, là, alors que le match Leafs-Floride va tirer à sa fin si ça va pas en prolongation. Retour également sur les séries du week-end, sur le bilan des Canadiens avec Steph. Et dans un instant, place à Martin qui est déjà là et Danny qui se joint à nous.
Toute l'actualité locale est maintenant disponible.